Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur le 201e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 26 juin. Et avec moi ce soir pour vous présenter toutes les nouveautés de la semaine comics, enfin toutes les nouveautés, une toute petite sélection puisque nous faisons un tout petit podcast, Mister René Bunny.
Oui, non mais ce qui est formidable c'est qu'on est donc le jeudi 26 juin et nous avons enregistré hier soir un live et nous avons un petit peu la gueule de bois. Pas du tout ce qu'on a dit avant l'enregistrement, c'est bien. Alors en fait on vous explique, Steve me dit avant l'enregistrement, ouais on va faire comme si on avait fait le live. Et en même temps il annonce le 26 juin, donc tout est normal.
Mais je sais, mais c'était fait pour.
On l'a enregistré demain en fait le truc.
C'était pour voir si les gens suivent en fait, c'est tout.
Ouais c'est ça, non mais on l'a enregistré demain. C'est notre continuité à nous.
Oui parce que hier soir vous avez entendu ce live magnifique, notre 200e.
Ouais.
Pas encore fait du coup. Parce que c'est du live.
Mais qui s'est super bien passé, hein. Mais on est juste un petit peu crevé, ouais, c'est tout.
On le sait d'avance, ce sera magnifique puisque nous y sommes.
Exactement. Oh. Bah voilà, tout est dit. Tout est dit. Il y aura d'ailleurs les meilleurs d'entre nous. On a fait une sélection à l'entrée. Et ceux qui ne sont pas là demain, c'est simple, c'est parce que, bah, c'est les plus mauvais, en fait, de l'équipe.
Et puis reste, bien sûr, ce soir, les deux meilleurs du live.
ceux qui sont arrivés en premier et qui repartiront en dernier,
hein. C'est tellement ça. C'est tellement voilà. Ça. Non, on a décidé de vous faire un petit spécial Comics Weekly, puisqu'on s'est dit ça va faire deux semaines sans Comics Weekly, deux semaines sans news de la VO. Ça faisait peut-être un peu beaucoup, et donc Benny et moi étions disponibles ce soir.
Je croyais que t'allais dire deux semaines sans nous. Ça va non. Faire deux semaines sans nous, vous allez vraiment...
Deux semaines sans news de VO, tout simplement.
Oui, d'accord. Oui.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit on va peut-être faire un petit Comics Weekly. Et l'avantage de la publication différée, c'est qu'on pourra sortir le 201e après la 200e sans changer l'ordre de parution habituel.
C'est formidable.
Tout si c'est calculé. Pas beau, tout est calculé ouais. D'avance avec le plus grand des hasards, évidemment.
Mais on n'avait pas prévu d'en faire un avant il y a quelques heures, en fait. Et on s'est dit, mais il y a quand même des choses intéressantes qui sortent cette semaine, donc on va en parler. On va essayer de lire quelques trucs.
Exactement, et nous allons démarrer justement tout de suite avec toi, Benny, qui va nous parler, évidemment, de ce que tu as lu.
Dessus. Tu sais plus ?
Mais si, si, bien sûr. Mais j'ai essayé de trouver une vanne, mais j'ai rien qui est venu, c'est horrible.
Alors, donc,
My
le
Little
Superman...
Pony, Friendship is Magic, évidemment.
Ouais, French Peace.
Ouais, non, mais je l'ai foiré complètement.
Oh. Non. D'accord, très bien.
On précise quand même pour les auditeurs qu'il est déjà 11h30 quasiment.
Ouais.
Du soir, évidemment.
Et que tu n'as pas beaucoup dormi ces derniers temps.
Et que donc dans moins de 24 heures, nous serons en live.
Eh oui. C'est beau.
Si c'est pas de la délégation, ça. Oh putain,
si c'est du dévouement total. Alors, Superman 32 de Jeff Jones et John Romita Jr. C'est l'événement et Klaus Janson à l'ancrage. J'allais dire au dessin, tu sais. Mais John Romita Jr. qui arrive quand même chez DC, ça fait bizarre, j'avoue, de lire du Superman dessiné par John Romita Jr.
C'est bizarre, mais en même temps très excitant, je trouve.
Oui, non mais clairement, c'est ça donne envie d'en lire.
Ah bah on insiste à un turning point majeur du monde du comics, clairement. Je veux dire, le comics
oui,
ne sera plus jamais le même après ça.
Non.
J'en fais trop.
Ouais, un petit peu. Au début, je me disais, est-ce qu'il est sérieux, tu sais, parce que bon, c'est vrai que c'est quand même un événement, mais alors justement, en parlant d'événement, je salue vraiment DC Comics qui a laissé la numérotation. Au fait, au numéro 32, quoi, qui continue la série comme si de rien n'était,
ouais.
Alors que Marvel nous aurait fait sans doute un numéro 1 pour un tel événement. Enfin, c'est John Romita Jr. qui arrive sur le titre.
DC nous fait du relaunch aussi, hein, entre le New Suicide Squad numéro 1 qui
ouais.
Sortira bientôt.
Certes, mais
et les
ils
New
auraient
Teen
eu...
Titans aussi, enfin, je veux dire, ils auraient pu relauncher, effectivement, et ils le font, d'ailleurs.
Oui, ils auraient pu relauncher surtout ce titre, qui est quand même l'un des titres principaux. Voilà, Superman numéro 1 par John Romita Jr. et Jeff Jones, c'est même un risque de ne pas relaucher et de le sortir comme ça, quoi. Je trouve que c'est tout à leur honneur, justement, de n'avoir pas joué là-dessus la carte du numéro 1, encore une fois.
Clairement, et c'est pas d'ailleurs la seule chose qui est très très bien chez DC cette semaine.
Ouais, par contre, c'est la seule chose qui est très bien par rapport à ce numéro qui est une sombre merde. Non, je déconne.
Non, mais pendant qu'on y est, on a aussi le Channel 52, à moins que ça ait commencé la semaine dernière et que je ne l'ai pas vu, puisque je n'ai rien lu de DC de la semaine dernière.
Et moi non plus, je crois pas. Donc,
mais,
je sais
en
pas.
En tout cas, nouvelle version du Channel 52, plus ces espèces de bandes dessinées infâmes, dégueulasses, avec trois pauvres journalistes où on nous répète 50 fois les mêmes trucs. Simplement, une grosse splash page avec un mot d'un éditeur qui nous présente un truc, et ça, voilà ce que j'attends. C'est quand même nettement mieux, je trouve, présenté comme ça.
Ah, clairement, clairement.
Ça donne en plus envie de lire vite fait ce que c'est. Soit ça nous intéresse ou ça nous intéresse pas, mais on est au moins attiré pour lire un petit peu, quoi.
Oui, c'est informatif, quoi. Ça fait le job, c'est très bien. Donc l'histoire, en fait. Au fait, dès les premières pages, on assiste aux origines d'un personnage dont les origines, justement, sont très similaires à celles de Superman. Alors, ce n'est pas Superman, on le comprend vite.
Mais je pense que c'est la version de Superman s'il était modernisé par Jeff Jones aujourd'hui, quoi.
Ouais, enfin, moi, j'ai vu ça plutôt comme... de toute façon, on va comprendre que, c'est une sorte de... Ça se passe déjà sur un monde parallèle. On comprend déjà au début que ça se passe sur un monde parallèle, mais on ne sait pas trop quels sont les tenants et les aboutissants de tout ça. Et bref, on nous montre ça. Et ensuite, on arrive directement dans le feu de l'action. Alors, Superman affronte Gorilla Grodd cybernétique. Non, je sais pas comment il s'appelle.
Ultimo.
Ultimo. Il existait déjà avant ?
Oh, oui, je crois. Oui. Je crois que c'est Ultimo.
En tout cas, il ressemble surtout à cette espèce de... Comment il s'appelait ? Sigor dans... Saigor.
Saigor dans Spawn, ouais.
Dans Spawn, ouais, carrément. Sauf que là, on a l'impression qu'en plus, il y a de la kryptonite dedans.
C'est pas Ultimo, c'est Titano. Pardon.
C'est Titano. Oui, Ultimo, c'est dans Iron Man. Je crois. Mais en tout cas, voilà. Donc on est directement.
Excusez-nous,
dans le
on
feu
est décalqué. On a fait un live hier aussi.
Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc on est directement dans le feu de l'action. En plus, dessiné par John Romita Jr. Ça fait son petit effet. Et puis on retrouve l'ambiance aussi du Daily Planet. Donc Clark Kent qui a été récemment réembauché. Alors j'ai pas compris tout le plot avec Jimmy Olsen dont les parents sont super riches et lui ont filé plein de thunes et ont disparu.
À mon avis, il faut avoir lu Superman.
Ouais.
Récemment.
Ces derniers mois. Ouais.
Et donc du coup, Jeff Jones soit nous plante un nouveau truc, soit c'est mis dans la continuité de ce qui se passait avant, et c'est pas plus mal après tout, qu'il soit pas arrivé en changeant tout sur la série. Ce que j'ai aimé, c'est que là, les premières pages en plus, ce sont les pages qu'on avait eues en preview il y a de ça quelques semaines, et on a pu voir enfin cette dernière case qui manquait, où on voit Lex Luthor save the world en une Daily Planet. Et j'ai trouvé ça bien que déjà qu'il y avait eu des grosses fuites concernant la fin de Forever Evil. Dans le preview, il ne nous l'avait pas fait fuiter, ce truc-là. Et ça, c'est une bonne chose, je trouve.
Oui, c'est vrai que ça aurait été un petit peu ballot de montrer ça. En même temps, bon, Jeff Jones n'a pas de mérite, puisque Forever Evil, c'était écrit par Jeff Jones. Donc,
ouais,
quand même.
C'est pas forcément lui qui choisit la preview.
Tout à fait. Ah non, mais bien sûr, non, mais je veux dire, il n'a pas de mérite d'en parler dans ce Superman.
Oui, bien sûr, oui.
Tout simplement. Voilà.
Le mérite, c'est vraiment de ne pas l'avoir montré en preview. J'ai trouvé que c'était intelligent pour une fois.
Et puis après, on va directement, de toute façon, dans le feu de l'action. Une espèce d'extraterrestre attaque la ville. Superman intervient et il n'est pas le seul à intervenir. Un autre super-héros fait son apparition, fait son entrée. Un super-héros donc vraisemblablement assez similaire à Superman.
C'est Thor, quoi.
Oh oui, si tu veux.
C'est un grand blond et puis dessiné par John Romita Jr. Bah,
voilà.
C'est Thor, quoi.
C'est vrai que ça peut faire penser à ça. Moi, ça m'a fait penser aux premiers épisodes de Straczynski et Romita Jr. sur Amazing Spider-Man, parce que le scénario, si tu veux, est un petit peu similaire, mine de rien. On se demande même si inconsciemment, James Jones ne se serait pas inspiré de ça, sachant qu'il allait avoir John Romita Jr. pour dessiner, parce que c'est un petit peu le truc... au fait, il y a un autre super-héros, enfin un autre personnage qui apparaît de nulle part, qui est un petit peu similaire à moi, qui a un petit peu les mêmes pouvoirs, est-ce qu'il a les mêmes origines, d'où il sort, pourquoi. Voilà, donc ça m'a fait penser un petit peu, bien sûr, je parle d'Ezekiel et
sauf que là,
de Peter Parker.
Superman n'est pas encore au courant qu'il a à peu près les mêmes origines.
Bien sûr, non mais nous on le voit par contre.
Nous on le voit, ouais.
Nous on le voit. Ça m'a fait penser à ça. Alors, évidemment, ça m'a fait penser à ça, surtout parce que c'est dessiné par John Romita Jr. Et il y a cette espèce de... Je sais pas, ça sent le renouveau, quoi. Tu vois, clairement, ça fait un très bon jumping point pour ceux même qui auraient arrêté Superman depuis des années, qui n'auraient jamais repris Superman avec les New 52, ou qui n'auraient jamais lu d'ailleurs Superman. Peut tout à fait, à mon avis, commencer par là.
Oui. Voilà. Oui. L'essentiel est rappelé.
Oui, bah de toute façon, Superman, c'est très simple, hein. On a vu les films, c'est un petit peu comme Batman. Une fois que t'as vu les films ou que tu connais un petit peu le personnage, tu peux tout à fait lire du Superman.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette version, les parents de Clark sont morts, les deux.
Ouais.
Puis c'est tout.
On le comprend.
Mais on comprend tout à fait sa situation avec le Daily Planet, qui est très bien résumé. Ouais. Jeff Jones a fait un bon boulot, non seulement de point d'entrée, mais aussi de début de run. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il nous place des petits indices aussi qui sont super intéressants. Ce fameux personnage mystérieux qui voit tout sur un écran et qui appelle Superman Clark en disant qu'il lui a tout appris. Si ça donne pas envie d'en savoir plus, ça...
Clairement. Mais c'est pour ça que ça me faisait penser aussi un peu à...
À voir moi l'une, ouais.
Ouais,
c'est
ça.
Et ne touche pas l'autre.
Exactement. Exactement. Et non, mais c'est... Oui, je... Quel génie, quel... Non, de toute façon, on peut rien faire contre ça.
Le génie de la vanne.
C'est du génie. Non, mais c'est du génie. C'est, ouais. Tu nous enterreras tous. Comme je disais, tu vas partir en dernier. Hein. C'est toi qui va fermer à la fin parce que c'est, voilà, on peut pas lutter contre ça. Bref. Non, mais en tout cas, très bonne petite lecture qui augure de grandes choses. Enfin, en tout cas,
J'attendais voilà, énormément ce numéro 1. Si on peut l'appeler ça comme ça, en tout cas ce premier numéro de Superman par Jeff Jones et Jerome Hita Jr. Ouais. Et franchement, je suis vraiment pas déçu. Certes, un peu conventionnel, on a déjà vu ça, le principe d'un autre Superman. Snyder l'a fait il y a pas longtemps dans son Superman Unchained.
Oui, oui, oui. Mais
encore une
fois,
frais, surtout dans les New 52.
Autant, tu vois, j'avais lu les premiers épisodes de Unchained, j'avais pas du tout accroché, mais alors vraiment pas du tout.
Ah, moi non plus.
J'avais trouvé ça redondant. Autant là, j'ai trouvé ça frais, j'ai trouvé ça fun, j'ai envie d'aller lire la suite. C'est peut-être parce que je suis influencé aussi par John Romita Jr. Alors pourtant, on avait Jim Lee sur Unchained. Donc,
ouais, mais Jim Lee, c'est pas pareil, quoi.
C'est vrai que c'est pas pareil. Et puis oui, bah on a plus l'habitude de voir Jim Lee sur DC. Là, c'est quand même assez incroyable.
Moi, je préfère un John Romita qu'un Jim Lee, hein, perso. Sauf quand il nous fait de la bouillie façon Kick-Ass, mais.
Ouais. Bah moi ça dépend. Mais au fait, dans le meilleur des mondes, j'aimerais bien les deux tous les mois, comme ça au moins.
Tu préférerais John Lee ou Jim Romita, c'est ça?
Jim Romita, ouais. Jim Romita Junior, j'aime bien. mais enfin voilà, donc. Non, très bon point d'entrée.
Autre chose intéressante, c'est que Jeff Jones a laissé la part belle à John Romita sur ce numéro. On a pas mal de pages où il y a très peu de bulles, où c'est vraiment de l'action, un storytelling qui est de la baston, donc forcément peu de place au dialogue, ce qui paraît logique. Mais voilà, il nous a vraiment donné du grand Romita pour le premier numéro, pour se débarquer, en lui laissant la place nécessaire pour imposer son style et son trait à l'univers DC, en tout cas celui de Superman. Mmh. Et j'ai trouvé ça malin aussi de la part de Jeff Jones de s'effacer un peu.
Ouais. Indeed.
J'ai pas de vanne. Je suis désolé.
Non.
J'en ai cherché une là, mais j'en ai pas. Rien qui est venu.
Un petit motherfucker, histoire de rester dans l'anglais. Et puis. Non, même pas.
Non, même pas. Non, ça vient pas. En tout cas, franchement, très bonne surprise.
Et écoute, il y a plus qu'à hein, donc pour moi ce sera un bail.
Pareil, un bail, jetez-vous dessus, tentez, si ça vous plaît, tant mieux, continuez, si ça vous plaît pas, tant pis, mais c'est en tout cas un numéro important.
Alors j'imagine qu'il y a plusieurs versions, plusieurs couvertures, etc. Mais je crois que la classique est au prix normal, hein.
C'est un numéro normal.
C'est 3 ou 4 dollars, je ne sais plus.
3,99$.
Ouais. Ah oui, 3,99$, oui. Donc c'est 4. Ok. Non, <et voilà. rire> tu m'as fait une fausse joie.
C'est 2,99$, je ne sais plus.
Oh bon, bah bref. En tout cas, ça les vaut. Voilà, ça les vaut, très franchement. Et c'est une bonne surprise. On va passer... c'est toi en plus.
Oui, on va passer à la suite. J'étais juste en train de vérifier le prix pour donner l'information la plus complète possible. Il est au prix de 3,99 en regular cover.
Ouais, ok. Normal.
Passons à la suite. C'est un autre gros morceau de cette semaine, puisqu'il s'agit encore de Jeff Jones. Hein, c'est une semaine très Jeff Jossienne, si je peux me permettre ce mot dégueulasse. C'est Justice League numéro 31. Alors oui, 31. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un peu de retard suite à Forever Evil. Merci Jeff Jones, merci David Finch. Merci, c'est ironique. Donc Justice League a un petit peu de décalage, ça va être rattrapé, ça va se recadrer très vite. Là, on est au numéro 31, post Forever Evil, nouveau statu quo. On avait appris à la fin de Forever Evil, attention au spoil si vous n'avez pas encore lu, mais franchement, vous le faites exprès vu le retard, que Lex Luthor avait découvert l'identité secrète de Batman.
Entre autres,
et
oui.
Et oui, il s'agit de Clark Kent.
Imagine, il s'est gouré, au fait. Ça aurait été drôle.
Clairement, c'est un numéro, je vais le dire tout de suite, qui m'a un peu laissé sur ma faim.
Ouais, moi aussi.
Parce que quand je suis arrivé à la dernière page, j'ai fait « Putain, merde, déjà, c'est déjà fini. J'avais envie d'en lire plus. » Cependant, le contrat est respecté, les 20 pages sont là. C'est juste que la situation prend un peu son temps parce qu'on a pas mal de dialogues. On commence avec une scène d'intro qui se passe avec cette nouvelle Power Ring qui a été choisie. Power Ring qui était cet équivalent de Green Lantern... du Villain Mons et de la Justice League, du Crime Syndicate en fait, qui avait pris la Terre en otage, etc. Relisez Forever Evil si vous avez le courage. Et Power Ring qui trouve un nouvel avatar pour cette nouvelle Terre. Et ensuite, on a cette fameuse confrontation entre Lex Luthor et Bruce Wayne, où Lex Luthor dit à Bruce « Je sais que t'es Batman », Bruce qui fait « Mais tu délires, c'est parce que ta calvitie te rend fou ».
Ouais, puis après il fait bisque-bisque-rage, après ils font pierre-feuille-ciseaux, et celui qui perd, et il aura pas le droit de jouer à la PlayStation pendant une semaine.
Et en tout cas, Lex Luthor utilise de méthodes assez musclées, on va dire, pour prouver, pour faire avouer finalement à Bruce Wayne qu'il est bien Batman.
Ouais, j'ai bien aimé la mise en scène, j'ai bien aimé cette scène. Et justement, j'ai trouvé qu'on en avait trop peu, au fait. Je pensais honnêtement qu'on allait passer tout le numéro là-dessus. Que ça allait être vraiment entièrement 20 pages de confrontation Bruce Wayne, Lex Luthor, et limite qu'on n'allait pas avoir du tout de choses concernant la Power Ring. Ça m'aurait pas dérangé qu'on parle de ça plus tard, et qu'on se concentre vraiment sur cette confrontation. Donc du coup, ça m'a un petit peu déçu, j'étais un petit peu sur ma faim, effectivement. J'avais limite envie ça m'intéressait pas beaucoup, en fait, ce qui se passe avec la Power Ring, pratiquement, tellement j'avais envie de voir ce que ça allait donner, cette confrontation. Et c'est vrai que, on a envie d'en voir plus.
C'est vrai que c'est vraiment le point principal du numéro. On a d'autres petites scènes, comme le personnage préféré de Geoff Johns, Cyborg, qui nous casse dès qu'il peut le placer quelque part, et Shazam. Alors
oui,
franchement,
le
tandem de l'extrême, le tandem de l'infini, le tandem qui, s'il pouvait disparaître des pages, ça m'arrangerait.
Ouais,
c'est censé être un élément comique, mais c'est juste vraiment pour gamin, c'est pas drôle, quoi.
Ouais, franchement, Ah oui, putain, puis alors, justement, je parlais de PlayStation, le gag, t'as une Xbox, ouais, elle est sur mon bras, tire mon doigt.
Ouais, c'est ça. Tire mon doigt, t'auras une manette, quoi.
Ouais.
Et enfin, le...
Sur mon doigt, t'auras de la moussaka.
Si tu as une gastro, ça peut arriver, effectivement.
Tu perds de l'huile, Cyborg, tu perds de l'huile.
On a le nouveau statu quo de Captain Cold, qu'on vous laissera découvrir, qui peut être intéressant. Renouvellement pour le personnage, un autre personnage favori de Geoff Johns, on le sait.
Ouais. Ça fait effectivement très Dark Reign, quand même.
Mmh.
T'as l'impression de revoir certaines scènes avec les personnages décès, mais c'est totalement transposé, quoi.
Et puis la fin, la dernière page, on savait que ça reviendrait. Bon, il nous l'impose, quoi.
Je me rappelle même plus d'ailleurs de comment ça se termine.
Je vais pas l'annoncer ici. Hein.
Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait, ouais. Oui. Oui, tu vois, quand je te disais que ça m'avait pas forcément passionné ce qu'il y avait. À côté, quoi, de cette confrontation Luthor-Bruce Wayne. Voilà, j'en avais même oublié la fin, et effectivement, oui. Bah, ça annonce, je crois, carrément un nouveau titre.
Bah, on verra si ça annonce un nouveau titre. Pour le moment, il n'a pas été annoncé de mémoire.
Pour le moment, il n'a pas été annoncé, d'accord. Okay.
Mais on sent que ça va être ça, quoi. C'est-à-dire que Geoff Johns continue de nous ramener d'anciennes icônes de l'univers DC, et par anciennes, j'insiste sur plutôt les années 60.
Voilà. Ouais, des choses qu'il a dû aimer. Oh, quoique, bah non, il était je crois qu'il pouvait même pas lire à l'époque.
Oui, enfin, c'est pas pour autant qu'il a pas fait du back issue. Je veux dire, regarde ce qu'il nous a ramené pendant Forever Evil. C'est l'autre pendant, quoi.
Ouais, non, mais j'ai tendance à croire que les auteurs veulent ramener ce qu'ils ont connu quand ils étaient petits en pensant que c'est ce qu'il y a de mieux. Lui, en l'occurrence, ce qui existait dans les années 60, c'était pas trop
le cas.
Ouais,
mais enfin, il y avait une seconde jeunesse dans les années 70-80, donc il les a sûrement découvert par là. Puis bon, de toute façon, surtout, ces personnages-là ont eu leurs heures de gloire dans les années 80. J'en dis beaucoup, mais bon, voilà.
Ouais, hein, surtout scénarisé par Grant Morrison, mais nous nous arrêterons là.
Je voulais pas aller jusque là, mais bon.
Eh bien, je vais le dire, et je vais même dire que c'est la Doom Patrol. Tiens, oh bah putain, tiens, allez. Voilà. Et puis, allez, et puis on spoil tout, rien à foutre.
Ça c'est fait.
Ouais, franchement, c'est pas un spoiler de ouf non plus. Je veux dire, ça se serait arrêté sur.
Ça avait déjà été plus ou moins annoncé, hein, de toute façon. Donc,
Ouais. Le véritable intérêt, le véritable événement de cet épisode, c'est vraiment la confrontation, quoi, qu'on attendait tous. C'est pour ça que j'ai lu d'ailleurs cet épisode.
Bon, en tout cas, bon épisode.
Oui, très bon épisode. Encore une fois, Jeff Jones là revient aux affaires. Hein. Il n'y a pas à dire, Forever Evil, c'était vraiment pas terrible. Vraiment chiant, très long, et j'ai l'impression qu'il reprend du poil de la bête, tant mieux. Bon alors, c'est peut-être juste une impression, mais en tout cas, il est plutôt en forme, quoi.
À voir. Malheureusement, je ne peux que lui laisser le bénéfice du doute, parce qu'il m'a trop déçu ces derniers temps, quoi. Donc il va en falloir beaucoup plus pour me convaincre.
Ouais. Bah, je crois qu'il te prévoit un petit week-end en amoureux, donc voilà. Peut-être que tu lui pardonneras, en fait.
Il faudra qu'il se fasse beaucoup pardonner. Faudra que ce sera. Oh putain, le mec il conjugue à mort, quoi. Ce sera un très long week-end. Hein.
Oui. Non, on va pas rentrer dans les détails dégueulasses ensuite. Donc on va tout de suite passer à la suite.
Bye.
Bye. Exact.
Bye, renouveau pour la Justice League, nouveau départ. Reste à savoir ce qu'il adviendra d'un personnage en particulier qui, l'on sait, est amené à disparaître de la Justice League, en tout cas au vu des sollicitations, des covers, etc. J'attends de voir pourquoi, tout simplement. C'est un personnage dont on a parlé juste avant.
Ah oui ? Oui, d'accord, ok. Oui, oui d'accord.
Bon bah on peut pas faire plus simple, hein, Benny.
Ouais, d'accord, ok. Allez. Écoute, Benny, fais un effort, lis des comics une fois dans ta vie.
Relis le conducteur, c'est ça.
Ouais. On passe à la suite.
On passe au dernier titre d'essai, effectivement, c'est le Batman 32.
Et le Batman 32, qui est l'avant-dernière partie de Zero Year.
Putain, on finit pas.
Ouais, et je croyais, je sais pas pourquoi, que c'était la dernière. Eh ben non. Donc du coup, j'ai lu ça en me disant, bon, de toute façon, au moins, je vais voir la fin. Et au fait, pas du tout.
Tu l'as lu pour rien, c'est horrible.
C'est vrai. Je l'ai lu très vite, hein, j'avoue. J'ai pas eu la patience cette semaine, enfin aujourd'hui plutôt, puisqu'on a lu quand même des trucs un petit peu à l'arrache.
Oui, bah on s'est juste un peu dit à 15h, ouais tiens, si on faisait un truc ce soir.
Ouais, voilà. Parce qu'on a que ça à faire.
Non mais parce qu'en fait, on prévoit tous les podcasts comme ça. Hein. Non,
oui.
C'est pas vrai.
Non mais depuis le début, hein, au fait, on s'est dit... Faudra bien arrêter un jour, et puis au fait, à chaque fois, on se dit, oh, allez, encore un dernier.
Tu fais quoi ce soir? Bon, tiens, si on enregistrait.
Voilà. Je serai Minus et tu seras Cortex, ou l'inverse d'ailleurs, plutôt.
Celui qui fait Cortex, il a le mauvais rôle.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison.
Et enfin, on pense pas forcément à celui du dessin animé, évidemment. Attends, fais gaffe, il va nous clasher après.
Et donc, cet épisode, par Scott Snyder et Greg Capullo. Bon alors graphiquement hein, toujours pareil, c'est très correct. Greg Capullo qui s'est vraiment imposé à Batman. Et par contre donc là Bruce essaye de dénicher Enigma et de savoir où il se planque au fait depuis le début. Et l'endroit où il se planque, au fait c'est assez simple. C'est vraiment, je dirais même on le sait tous depuis le début si on a été attentif. Rappelle-toi le début de Zero Year. Et puis
c'était il y a 8 ans, excuse-moi, ma mémoire ne remonte pas.
Oui, voilà, non mais c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'on a tous oublié parce que ça fait très longtemps, ça va faire un an quoi quasiment. Mais en tout cas voilà, je me suis dit ah bah oui, mince, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Et alors là, tu te dis franchement Batman et Bruce Wayne surtout lui aurait dû trouver la solution, aurait dû trouver sa planque. En même temps c'est plutôt bien amené, c'est bien écrit, enfin voilà. Ça se termine sur un petit cliff. On sent que ça va que Snyder va ranger les jouets quoi et que c'est bientôt la fin. Je peux pas dire que j'ai été particulièrement emballé et que
sans déconner, ça s'entend pas du tout.
Oui, voilà. Non mais On pourrait penser qu'il y a un petit twist, un petit truc qui me fasse dire à la fin que finalement, Zero Year, ça valait le coup. Mais ça m'étonnerait que dans le dernier épisode, je me dise, ah bah oui, finalement, partant de là, j'ai peur du petit ajout qu'il risque de faire à la fin pour marquer le coup. Et qui change un petit peu tout et que ce soit vraiment très forcé, quoi. Mais bon, on verra. On verra comment il conclut. Parce que bon, à moins qu'il ne fasse rien, comme avec Death of the Family.
En même temps, il y a tellement rien à faire, étant donné que c'est dans le passé, il peut pas modifier le concept de Batman.
Ouais.
Il peut pas lui faire couper un bras ou perdre une main, quoi.
Il a quand même pas mal modifié, ou en tout cas fait à sa sauce les origines du Joker. Donc bon.
Ah non, je parlais pour Zero Year. Et encore, on n'est même pas sûr que ce soit le Joker. Hein.
Oui, mais voilà, c'est ça. C'est ça. Donc il y a toujours le doute. Donc bon. Ouais, je sais pas. Faudra voir.
Syndrome Snyder, je mets le doute. Le frère de Bruce, peut-être. La mort de Joker, peut-être. Les origines de Joker, peut-être. Voilà. Un grand peut-être que le run de Snyder sur Batman.
Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est je change tout sans le dire, quoi. Mais ouais, voilà, ça aurait été long, ça aurait été très long, quoi. Pour ma part, je suis content quand même que ça se termine, et je sais même pas qu'est-ce qu'on a après, du coup. Steve, tu sais peut-être quel est le nom de l'arc, de quoi s'agira-t-il après Zero Year ?
Je sais qu'après nous avons un épisode dessiné par quelqu'un d'autre que Greg Capullo pour se reposer, et puis on sera quand même dans l'arc. Je me rappelle plus si Snyder en fait partie ou pas, mais il faudra déjà être accord un peu avec les éléments de Batman Eternal, et puis il y aura aussi l'arc Robin Rises
et puis l'arc Zero Year point 1.
On se trash de Marvel.
Non. Ouais. Voilà. Ou Zero Year Beyond, tu sais le truc. Zero Year plus 1.
Batman Beyond Zero Year.
Oh non, pitié. Bref, ne leur donnons pas des idées. Ouais, bah écoute, pour moi, vu que ça m'ennuie quand même relativement beaucoup, hein, on va dire ça comme ça, je dirais juste que c'est un check-it. Et honnêtement, je pense que le tout passerait beaucoup mieux en TP à la fin. Prenez-vous Zero Year en TP. Alors à mon avis, ils en feront deux, voire trois, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais ça passerait déjà mieux comme ça.
Ouais, je pense aussi. Personnellement, je pense aussi.
Très franchement, de toute façon, c'est comme...
Zero Year, Forever Evil, même combat, quoi.
Oui, mais même la cour des hiboux, tout ça. Effectivement, la cour des hiboux, j'ai relu quasiment l'intégralité de la saga en TP. Ça passe beaucoup mieux. Ça passe beaucoup mieux, quand même. C'est pas génialissime, mais ça passe beaucoup mieux que le lire au rythme mensuel.
Mais moi, le rythme mensuel ne m'avait pas dérangé. Je t'avouerai que j'ai quand même zappé des tie-in. Mais enfin, en tout cas, dans les autres séries de Batman. Mais
ah non, mais je parle juste de la série dans Batman, en fait.
Le rythme mensuel ne m'avait pas dérangé tant que ça. Pour Death of the Family non plus, mais sur Zero Year, je le sens passer, quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'avant, à force, on connaît le schéma. On sait aussi que il prend son temps et voilà, c'est toujours très très long, très très développé les scénarios.
Hein. Comme nous, on voulait pas faire long soir, mais c'est mal barré.
C'est vrai, c'est mal barré.
Bon, mais, bah, non, allez. Tu as raison. Puis après, c'est peut-être aussi un désintérêt que l'on a actuellement pour DC, quand même.
Mine de rien, regarde, cette semaine, hein, j'ai lu 3 DC et un seul Marvel, et quel Marvel en plus. Mais voilà, donc ouais, ça dépend des semaines, ça dépend des semaines.
En règle générale, DC nous saoule un peu en ce moment, donc...
C'est vrai.
C'est peut-être vrai. Aussi pour ça qu'on ressent plus cet aspect longueur. Bon, bref. Du coup, un check-it seulement ?
Un check-it seulement.
On ne fait pas de TP cette semaine, on essaie quand même de faire un peu plus court, puisqu'on a quand même eu une grosse émission hier soir. Qui nous a profondément épuisé.
Ouais. Ouais, puis c'était un spécial TP au fait.
Bon,
de toute façon,
là,
y aura pas de vanne puisque de toute façon, les gens n'écouteront ça qu'après avoir vu le live. Donc merde.
Mince, on l'a annoncé. Nous allons passer donc à notre partie 1 des grosses sorties de cette semaine. Il s'agit de Outcast, la nouvelle série de Robert Kirkman, dessinée par Paul Azaceta, avec Elizabeth Breitweiser à la couleur. Un titre glauque, sombre, crade, malsain.
Ah oui, carrément.
Ah oui, clairement. C'est assez nébuleux. C'est une construction d'histoire avec des moments de flashback, des moments de présent. Il y a des moments où on ne sait plus vraiment où on en est. Je pensais que les deux histoires se passaient en parallèle, l'une étant le flashback de l'autre, et finalement pas du tout. Et c'est bien mené parce qu'on comprend au fil de l'épisode ce que c'est. En plus, c'est un épisode double, clairement. Gros épisode qui est assez long à lire. Alors, le principe d'Adcast, nous allons suivre un personnage qui a des soucis hein, quand même, qui vit seul, qui a tendance à ne pas sortir.
C'est Robert Kirkman au scénario. Hein. Je sais plus si t'as dit.
Oui, c'est Robert Kirkman et Paul Zaceta au dessin.
Oui, d'accord.
Okay. C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est pas grave.
J'ai dû avoir vraiment un décrochage là.
Une absence, ouais.
Oui.
Donc, ce personnage est quand même assez étrange. Il sort très peu de chez lui. On comprend qu'il a eu des gros soucis avec sa mère. On comprend assez vite, sans savoir vraiment pourquoi, surtout avec cette double construction où on ne sait pas trop ce que l'on voit. C'est pour ça que je vais éviter de trop en révéler, pour vous quand même vous laisser un maximum de surprises. Mais ce personnage-là est hyper étrange. On assiste aussi en même temps à des exorcismes. On nous place en fait peu à peu les différents personnages qui vont avoir un rôle important dans la série. Donc ce personnage qui est donc le outcast, mais aussi sa sœur, qui est marié à un des flics de la ville, flic qui ne peut donc pas voir son beau-frère, qui le trouve vraiment bizarre, et vous allez comprendre pourquoi au fil de l'épisode. C'est une série qui a trait à la magie, enfin la magie, plutôt aux possessions, à l'exorcisme, tout ça. C'est relativement intéressant, j'avouerai que jusqu'à la moitié de l'épisode, je commençais à me faire un peu chier, je me demandais où ça allait, personnage principal étant assez antipathique, ses méthodes qu'on va découvrir vers la fin de l'épisode étant très expéditives.
Est-ce qu'on se rend compte, sans... imaginons que tu ne saches pas qui écrit, est-ce qu'on se rend compte que c'est du Robert Kirkman ? Parce que ça semble vraiment être encore très différent de ce qu'il fait d'habitude.
C'est vraiment différent de ce qu'il fait d'habitude, enfin en tout cas c'est pas du tout les mêmes constructions que l'on a dans Walking Dead. C'est ça qui est intéressant justement. C'est pas non plus du tout le même style qu'Invincible ou que Super Dinosaur ou que Thief of Thieves, même si sur Thief of Thieves il n'est pas scénariste mais juste on va dire merde je retrouve pas le terme mais showrunner voilà de la série. C'est vraiment une autre ambiance. Le dessin de Paul Azaceta est pour beaucoup aussi un dessin sombre qui rend les choses assez malsaines. Il y a des planches, je veux dire dès la deuxième planche on voit un gamin qui est en train de manger des chips. Et qui en fait.
Ça me rappelle quelqu'un.
Qui en fait n'a pas mangé que les chips, mais s'est carrément bouffé le doigt avec, s'arrachant au passage un morceau d'ongle et de chair. Tout ça dans un déluge de graphisme assez crade.
Ah, ça me rappelle la bande-annonce justement du. C'est sur le même sujet d'Oculus, là, avec Karen Gillan.
J'ai pas vu la bande-annonce, je crois pas.
Si, on l'avait vu ensemble. Regarde, tu la vois, t'as une ampoule et une pomme posées côte à côte. Tu la vois prendre la pomme
ah, oui, non,
et
non,
croquer
non,
dedans.
Putain, j'avais occulté ça de ma mémoire. Oh non.
Voilà. Et au fait, après, tu te rends compte qu'elle a pas croqué dans la pomme, quoi.
Ah putain, non.
J'avais enfin, oublié... elle se rend compte.
J'avais oublié ça. Merci de me le rappeler.
Ça me fait vraiment penser à ça. C'est
dégueulasse. Ça m'avait mis mal à l'aise. J'avais oublié. Ah.
Ah, j'avais trouvé ça super original pour un film qui doit pas être exceptionnel parce qu'il y en a quand même eu beaucoup des films d'horreur comme ça. Enfin, je sais pas, ça tombe, c'est très bien, mais en tout cas, ça m'avait marqué quoi. La bande-annonce était efficace pour ça.
Oui, bah, là en tout cas, pour revenir aux comics, c'est efficace. C'est une ambiance de mystère, de secret, une ambiance malsaine avec des possessions assez, comme je disais, assez graphiques. Des méthodes de désenvoûtement, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas d'exorcisme, qui sont assez hardcore.
J'ai de drôles d'images en tête.
Je te laisse découvrir ça par toi-même. Franchement, c'est vraiment bien foutu et j'ai envie d'aller voir au moins où ça va. On a eu assez de surprises avec Walking Dead. Le premier numéro était sympathique, payait pas trop de mine, mais était sympathique, mais on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Il y a du potentiel. Après, je sais pas combien de temps il pourrait faire durer ça. J'ai du mal à imaginer autant Walking Dead, un monde apocalyptique, rempli de zombies, etc. On sait que ça peut durer longtemps. Là, je suis pas certain que la série puisse avoir le même succès et durer 127 numéros. On est rendu à 127, je crois, de Walking Dead. Mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? S'il arrive à renouveler le genre. Donc moi, j'ai envie de mettre un gros bail pour cette série.
Eh ben écoute, on va te laisser faire. Hein.
Découvrez-le, testez quoi. De toute façon, c'est le meilleur moyen de voir le truc. Hein.
Exactement.
C'est d'une banalité affligeante ce que je raconte.
Non, non, c'est de la profonde, de la grande philosophie. Je pense que tu... Voilà.
BHL, fais gaffe à toi.
Exactement.
On va terminer notre partie 1D avec toi, Benny, qui va nous parler de Dream Police numéro 3.
Dream Police numéro 3, écrit par J. Michael Straczynski, Sid Kotian est à, ou Kotian est à, est au dessin, et Ify est à la sonorisation, non, à la colorisation. Oh, la
mais
blague.
Dis donc, mais c'est qu'il y a de l'humour ce soir. Il y a de l'humour. Il y a de la vanne, dis donc, c'est le live d'hier qui t'a réveillé ton sens de la vanne, Niné.
Bref. Donc,
ce que je me demande, c'est si on t'apporte tes vannes en camion.
Oui, oui, oui.
Van, camion, voilà.
Ah oui, oui, voilà, c'est ça. Oh putain, très bon. Oh là là. Eh ben, dis donc, on est paré pour ce qu'on a enregistré hier, bien sûr.
Quand tu penses que je comprends pas comment on a pu atteindre un tel succès juste nous deux, quoi.
Non. Je pense que c'est. Non, mais moi je comprends maintenant pourquoi les audiences ont monté depuis qu'on le fait plus qu'à deux. Enfin, depuis qu'on le fait plus à deux.
Ouais, ouais. Enfin, ça va, tu sais, pas du tout la grossette, un tel succès, au moins, quoi.
Bon, bref, donc Dream Police, rappelle-toi de ce premier épisode où ça se concluait sur un truc assez bizarre, où au fait c'était un duo de flics, et l'un des deux se rendait compte que son partenaire n'existait peut-être pas, puisque à la fin on voyait une nana arriver, alors que tout l'épisode il passait avec un partenaire masculin.
La réalité avait changé et son partenaire était devenu une partenaire.
Et bah au fait,
la réalité était bizarre de toute façon.
Oui, bah au fait, la réalité n'avait pas changé parce qu'il semblerait que son vrai partenaire depuis le début, c'est une meuf. Et qu'au fait, ils se prennent à rêver, il y a des moments d'absence, et qu'au fait, pendant certaines phases de rêve, ils soient avec un partenaire masculin, qui le connaît bien, qui le connaît depuis des années, etc. Sauf que les policiers donc du rêve, hein, n'ont pas le droit de rêver, ne peuvent normalement pas rêver. Donc, il trouve ça très bizarre, il se pose plein de questions là-dessus. Et,
gros mindfuck à la Inception, quoi.
Exactement. Et puis, en plus, là, il mène l'enquête, donc, avec sa collègue, sur un autre flic de cette police du rêve, qui serait allé attaquer un dormeur, hein, un rêveur. Pas un dormeur comme dans le Original Sin, un rêveur.
Le dormeur doit se réveiller, comme dans Dark City, c'est bien connu.
Et non, mais justement, faut surtout pas aller les perturber pendant leurs rêves, puisque y a rien de pire, selon eux, qu'un rêveur qui a peur de rêver, quoi, qui a peur d'aller au lit et de s'endormir, et voilà. Ça a des répercussions terribles sur le mainstream, monsieur! Et sur le prix du café, enfin, plein de choses très 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 dérangeantes. Donc voilà. Donc du coup, y a toute cette enquête dans cet épisode. Un épisode qui est assez long à lire, il y a beaucoup de textes brillamment écrits par Straczynski, qui vraiment a soigné ses plumes, encore une fois, pour l'occasion. Il y a même certains moments poétiques, dont un moment, enfin plusieurs moments, où au fait l'agent, donc le héros, va au même endroit à chaque fois, voir une nana qui raconte au fait toujours la même chose à ceux qui vont la voir. Elle fait partie donc du monde du rêve, hein. C'est une femme qui est là dans sa cuisine et qui demande aux gens qui vont la voir de leur raconter leur journée. Et puis voilà, en fait, c'est juste histoire d'avoir une espèce de présence comme ça, féminine, à qui se confier, comme une sorte de confessionnal, en fait.
La Martha Stewart, quoi.
Et puis normalement, elle dit toujours les mêmes choses. Tu sais, elle a toujours les mêmes réflexions, elle dit toujours les mêmes choses. C'est juste pour se donner l'impression de dialoguer avec quelqu'un et de raconter sa journée. Là, par exemple, à un moment donné, elle lui répond, quoi. Clairement, elle lui répond. Donc, il y a des choses bizarres, et puis aussi il va consulter des espèces de dossiers, les black dossiers, enfin les dossiers noirs normalement qui sont là justement pour pas être consultés, puisque les dossiers noirs c'est marqué dessus, tu sais, faut pas les consulter. Ça me fait toujours marrer ça. Mais il va quand même les consulter parce qu'il a des gros doutes par rapport à la vision, enfin aux visions qu'il a de ce partenaire particulier, voilà.
Oh putain de merde.
Putain, du coup, je l'ai en tête, c'est terrible, c'est horrible.
Ah, on serait face à face, je te mettais une claque.
Ouais, moi je te mettrai, non, j'ai rien.
Non, ça va, pas besoin d'images, je les ai, ça va.
Voilà. Ben voilà, de deviner dans les commentaires ce que j'allais dire. Et vous l'aurez en vrai. Si vous
Rendez-vous à la prochaine convention, les amis.
Exactement. Plus on est de fous, plus on rit. Et enfin voilà, donc c'est très vaste. Vraiment un scénario très travaillé, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, plein de petites choses aussi à voir, à mon avis, dans les décors, des petits indices disséminés un peu partout. Non, enfin, c'est vachement bien foutu, quoi. C'est très bon titre. Je rêverais de voir, justement, sans mauvais jeu de mots, ce titre adapté en série télé ou même en film un jour. Voilà, c'est très bon. Très très bon. Du très bon Straczynski. Et vive Joe's Comics. Et pour moi, c'est mon coup de cœur de la semaine, d'ailleurs.
Eh bien, comme ouais. Tu y vas.
Ah oui, carrément, il faut bien ça.
Donc, gros bail pour ce Dream Police numéro 3, série qui continue d'être très très bonne.
Absolument, absolument. Faites une ovation à ce titre qui le mérite amplement et qui pourrait passer en plus un petit peu sous le radar. Parce que bon, bah, Joe's Comics, c'est pas non plus la grosse maison d'édition. Quoi. Bah,
c'est quand même un sous-label d'Image. Enfin, je veux dire, il a
c'est un sous-label d'Image, certes, mais bon... Voilà. Straczynski, certainement, elle vend en poupe toujours, mais bon. Est-ce que les gens vont faire la démarche d'aller voir ce titre? En tout cas, je vous l'encourage vivement à le faire, puisque, oula, ça veut plus rien dire ce que je raconte. Mais c'est pas grave. Vous m'avez compris.
Oui, tu sais, c'était moi tout à l'heure, donc après tout. Hein. Qui disait de la merde.
Oui, enchaîne.
Bon, on va passer maintenant à Marvel. On va commencer avec Original Sin 3.1, appelé Hulk versus Iron Man numéro 1, c'est-à-dire double numérotation, puisqu'après les relaunchs chez Marvel, on fait carrément deux numérotations, c'est encore mieux pour se repérer. Scénarisé par Mark Waid et Kieron Gillen, donc scénariste respectivement de Hulk, pardon, parce que la série s'appelle plus que Hulk maintenant, et Iron Man. Mark Waid vient de quitter son poste sur Hulk, Kieron Gillen vient d'arrêter Iron Man est en pause actuellement. C'est le script de cet épisode-là est scénarisé et de Mark Waid, pardon. Les dessins sont de Mark Bagley avec un ancrage d'Andrew Hennessy. Et eh bien, on va revenir sur cette fameuse bombe oculaire qui avait pété à la fin de l'épisode 2, je crois, de Original Sin, ou l'épisode 3, non l'épisode 2. Et qui révélait tout un tas de secrets à tous les gens qui étaient présents dans les alentours de l'explosion de cet œil du Watcher, hein, relisé Original Sin pour mieux comprendre, parce qu'on va essayer de faire vite. Et on apprend que Iron Man et Hulk, dû aux radiations gamma et aux radiations laissées par Extremis dans le corps de Iron Man, donc Tony Stark, ont eu pour effet de mélanger leur psyché. On va voir que Iron Man et Bruce Banner, enfin, que Tony Stark et Bruce Banner, pardon, se connaissaient à l'époque où ils ont fait la bombe gamma, qui a donné ses pouvoirs à Bruce Banner et qui lui a rendu Hulk, se connaissaient un petit peu avant, ils ont travaillé ensemble sur ce projet, et que c'était dit dans les sollicitations, c'est dit depuis pas mal, enfin, sur pas mal d'endroits depuis déjà quelques semaines, les origines de Hulk sont dépendante en tout cas de Tony Stark. Alors pourquoi, comment, on aura les premières réponses dans cet épisode, quelque chose auquel on pouvait s'attendre, quelque chose que l'on voit venir, mais ce sont les répercussions de cette révélation qui vont être intéressantes. On a déjà des premières répercussions dès le début, avec un énorme combat entre Iron Man dans une armure Hulkbuster contre Hulk, un Hulk qui est un Hulk intelligent.
Un Hulk et lunettes.
Ouais, voilà, presque. On a aussi un petit peu de jumping point, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi vraiment Iron Man ou Hulk ces dernières semaines, ces derniers mois, avec notamment un petit retour sur la résolution de qui a tiré dans la tête de Hulk et surtout comment il s'en est remis, enfin la tête de Bruce Banner plutôt. Enfin voilà, c'est pas trop mal, ça casse pas des briques. C'est un Mark Bagley qui n'est vraiment pas en forme.
Oh, le jeu de mots, ça casse pas des briques pour du Hulk.
Je l'ai pas vu.
Oh.
Honnêtement, Mark Bagley n'est pas du tout en forme sur cet épisode. C'est vraiment le point noir. Il y a quand même des. C'est dessiné à l'arrache, hein. À se demander si le mec a eu le temps.
Ouais. Oui, bah c'est du Bagley un petit peu de. Comment
c'est
ça
du, c'est du Mark Bagley, quoi.
Du Trinity, quoi. C'était pas. C'était un peu rushé aussi.
Ouais. Ouais. Ça va, tu n'as pas entendu ma vanne, tant mieux.
Si, malheureusement. Malheureusement, mais j'ai essayé de.
Horrible.
J'essaie de l'éluder de mon esprit.
Bref, il y a des questions. On aura des réponses bientôt. Je rappelle que ça va être en 4 parties de mémoire. Bon, voilà. J'ai envie de voir où ça va quand même. Mais c'est pas transcendant, donc ce sera tout juste un check-it pour ceux qui ont envie de savoir.
Mais c'est marrant parce que cette espèce de lien qu'il a avec Tony Stark, finalement, il l'a placé dès le premier épisode de son run. Hein. Puisque, rappelle-toi, dans le premier épisode, il était déjà confronté à Tony Stark, il me semble.
Ouais, mais là, c'est vraiment quelque chose qu'on ne savait pas.
Oui, d'accord, oui, bien sûr, oui, c'est un ajout, bien sûr.
Si c'était su, je me rappelle plus du tout. Mais bon, voilà, on comprend mieux certaines choses. Après, il faut voir ce qu'ils vont en faire. Moi, ce qui me fait peur, c'est est-ce que ça aura véritablement une importance et des répercussions dans l'univers Marvel, comme on espère nous le faire croire depuis très longtemps, le gimmick commercial auquel on n'attache plus des masses d'importance parce qu'on a été trop souvent fois déçus.
Mais j'ai l'impression qu'il retconne pas mal de choses dernièrement chez Marvel.
Ouais, surtout depuis Age of Ultron.
C'est ça. Ben voilà, exactement. Bah oui. Et d'ailleurs, très belle transition.
Alors, oui.
Sauf si c'est bien moi qui dois parler d'Amazing Spider-Man numéro 3.
Bah oui.
Voilà, bah justement, non mais j'allais dire très belle transition, puisque, au fait, dès les premières pages, c'est d'ailleurs ce qui est le plus intéressant dans cet épisode, on en apprend un peu plus sur cette fameuse nana qui aurait également les pouvoirs de Spider-Man.
Silk, je crois, c'est son.
Enfin, les pouvoirs de Spider-Man, ça veut rien dire ce que je raconte.
Qui aurait les mêmes pouvoirs, mordus par la même araignée. Ouais.
Exactement, mordus par la même araignée. Ce qui est un gros rectone. Ou un... Oui, voilà.
Redcon, pas rectum.
Redcon, oui.
Rectum. Pas rectum. Enfin, après, c'est peut-être dans ton rectum pour la mythologie Spider-Man, mais...
Elle a un gros rectum, là, qui est d'ailleurs très bien dessiné par... j'ai pas donné les crédits. J'essaye de me sauver comme je peux, hein,
ah là, ouais,
façon.
Mais alors là, je crois
par
que c'est
Humberto Ramos. Par Humberto Ramos. Dan Slott est au scénario et Victor Olazaba est à l'ancrage. Voilà, on n'a rien entendu du tout. Tout va bien. Oui, je pense que c'est encore un des effets de Age of Ultron. Ça a légèrement changé la continuité, puisqu'effectivement cette araignée qu'on voyait très bien, on voyait très bien que Peter l'écrasait après s'être fait mordre par cette araignée. Donc l'araignée était morte, elle ne pouvait pas s'échapper, elle ne pouvait pas aller piquer quelqu'un d'autre ou mordre quelqu'un d'autre plutôt, devrais-je dire. Ben voilà, là ça a changé visiblement totalement. Mais pourquoi n'avons-nous pas vu cette nana depuis ? Eh bien,
c'est qu'elle est morte.
Non, c'est assez bien foutu. Alors, quand même, c'est vraiment les deux premières pages, donc à la limite, j'ai envie de te révéler au moins ça de cet épisode. Rappelle-toi, justement, c'est il y allait chercher les histoires avec Ezekiel. Rappelle-toi ce qu'Ezekiel voulait faire avec Peter Parker. Il voulait l'enfermer dans une espèce de lieu totalement hermétique dans lequel il aurait pu vivre pendant des mois. Voire des années, peut-être, je ne sais pas. Une espèce de pièce avec tout le confort nécessaire. Une espèce de bunker, quoi, ultime.
Craven Last Hunt, mais en plus sympa, quoi.
Voilà. Et alors, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, c'était vraiment un des tout premiers épisodes avec Ezekiel. Et au fait, il lui proposait de rester dans cette espèce de bunker qu'il avait créé pour lui, plutôt que d'aller affronter Morlun. Et bien sûr, Peter Parker choisissait d'aller affronter Morlun. Et bah là, la nana, en question, serait donc dans l'un de ces fameux bunkers. Et elle ne sait même pas qu'Ezekiel est mort depuis bien longtemps.
Voilà. Pas de chance.
Ah oui, c'est donc elle est bien embêtée. Elle commence à s'ennuyer. Voilà. Et puis bon, alors sinon le reste de l'épisode, on est toujours dans cet arc avec Black Cat qui est pas contente parce que Peter Parker, jadis possédé par Otto Octavius, l'a foutu en prison et lui a surtout foutu une pêche en pleine tronche. C'est assez drôle. Non, je n'aime pas Black Cat.
Ouais.
Oh, quel salopard.
Un mort comique qui bat la femme.
A tout compris. Non, bien sûr. Non, après on va vraiment avoir des problèmes. Donc bien sûr, c'est de l'humour et autre joyeuseté.
Benny habitant à Paris.
Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Là justement Black Cat, voilà, c'est pas bien de battre les femmes puisqu'après vous avez des femmes comme Black Cat sur le dos, hein, qui vous mènent la vie dure.
Puis elle peut vous pourrir avec son pouvoir.
Exactement. Et donc là elle veut vraiment lui pourrir la vie et il y a un twist assez marrant, c'est-à-dire que Peter Parker lui révèle quelque chose, c'est pas du tout ce qu'on imagine qu'il va lui dire.
J'ai des morpions.
Voilà, par exemple. Par exemple.
T'approches pas, j'ai des puces.
Par exemple. Moi aussi j'ai une Black Cat. Oh putain, c'est dégueulasse que j'aime vraiment.
Ah, c'est crade, ouais.
Non, mais c'est nul. Bref, toujours est-il que voilà, donc c'est assez marrant, un petit twist. Bon, et puis oui, puis aussi un truc qui m'a un peu agacé, Mary Jane qui a un nouveau prétendant. Dan Slott veut vraiment tout faire pour séparer Mary Jane de Peter.
Toujours ce fameux pompier, hein, j'imagine.
Oui, ce fameux pompier, oui. Ah, les pompiers. Voilà.
Avec leur grosse lance à incendie.
Voilà. Exactement. Et Dieu sait si Mary Jane, elle fait aux fesses.
Ouais. Oh putain. Oh là, ça finit en apothéose, quoi.
Ouais, voilà, c'était la review 100% misogyne, tu sais.
C'est fini au bétonquet, quoi.
Bon. Eh, pouette. Bon, bah, en tout cas, bah, non, c'était plutôt pas mal, cet épisode. Beaucoup mieux que le premier Amazing Spider-Man de deux mois. Si je dis pas de bêtises.
Mais pour le 2, tu ne sais pas.
Je sais plus. C'est oui, le 2, j'ai sauté le numéro 2. Oh, misogynie encore.
Oh, putain.
Bon, enfin voilà. Mais en tout cas, ce troisième épisode est plutôt sympa. Voilà, ça donne envie effectivement de voir la suite.
Vous le saurez, Bonnie ne lit que les numéros impairs.
Exactement. Non, mais voilà, je suis éclectique dans ma sélection. Je vais voir un petit peu tout. Ça dépend des mois. Ça dépend de.
C'est juste que Bonnie ne sait pas compter, en fait.
Oui. C'est
un,
juste que j'oublie.
3.
Voilà.
J'ai décidé d'acheter qu'un seul Spider-Man par mois, point.
Oui. Point 0, bien sûr.
Point 1,
oui.
Et pas point G, évidemment.
Et bien d'ailleurs, il y a toujours la série aussi, point 1, là. Point 2, point 3, etc. Que je ne lis pas, mais tu en avais dit du bien, donc voilà.
Oui. Pas moi, mais bon, pas. C'était Bruno.
Ah, c'était Bruno. Voilà. Bon. Eh bien, en tout cas, c'était plutôt sympa. Non, mais écoute, je vais mettre un petit bail à cet épisode.
Quoi?
Carrément. Allez, soyons fous. Ça m'a fait marrer, surtout la révélation au début. Je trouvais ça sympa comme idée.
Bon, ben voilà. Comme on a dit, un petit programme, petite semaine, parce que nous sommes très fatigués du live d'hier soir qui est enregistré demain.
Et petite heure. Parce qu'on est même pas
encore
une heure.
On est en dessous l'heure, on a réussi.
On est en dessous l'heure, puisque je crois même qu'on avait commencé à enregistrer avant l'enregistrement, si ça veut dire quelque chose.
Voilà, on a fait 5 minutes de merde avant.
Ouais.
Facile. Bref, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce 201e Comics Weekly.
Allez, ça enfile des bougies à souffler.
Oh là là, t'imagines le nombre de semaines qu'on a gaspillées dans notre vie.
Ah, c'est surtout les auditeurs hein, qui sont. Ils ont écouté 201 fois pour dire ce qu'on dit.
Vraiment, on vous remercie de nous suivre toujours plus nombreux chaque semaine.
Faut avoir les tympans bien accrochés. Hein.
Surtout vu ce qu'on a dit il y a juste quelques secondes.
Ouais. Surtout si vous êtes une auditrice, alors dans ce cas-là. Je pense que ça n'existe pas.
Ça
en tout cas, elle ne se manifeste jamais.
Elles ont bien raison.
Oui, en même temps, c'est vrai.
On vous remercie vraiment. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, mais aussi sur le site, évidemment, avec tous les autres articles, notamment les top et flops, les guides de lecture, mais aussi la question de la semaine de Steph. Et puis, nous retrouver pour toutes les anciennes émissions sur le site aussi. Et
les anciennes.
Sur iTunes, oui, j'espérais que ça passe, hein, tu vois.
Les anciennes émissions.
Faites confiance à Bunny pour vous pourrir là où vous avez dérapé.
Les entières émissions, tu voulais dire les émissions entières, bien sûr, en intégralité.
Exactement, et pas seulement des extraits, évidemment.
Ben oui, tout à fait, puisqu'il y en a qui osent mettre des extraits et puis ensuite demander de l'argent pour écouter l'intégralité.
Principalement le magicien, d'ailleurs. Il ose beaucoup.
Oh la vache!
Putain, c'est la panne de l'enfer!
J'étais resté sur extrait, tu sais, je cherchais le magicien extrait, je me dis, bon, ça doit être une série que je regarde pas, le magicien extrait. Je voyais pas l'import.
Je sais pas d'où elle est venue, celle-ci.
Non, mais voilà, d'un pays très lointain.
D'un endroit où c'est les ténèbres.
Oui.
Oh, il y en a plein dans le corps humain, je vous laisse découvrir. Découvre ton corps, toi aussi. Avec
non, stop.
Attends, on est un peu les Doc Eddyfool du comics, à vous.
Oui. Oui, si tu veux, oui. Ça parlera uniquement à notre génération, je pense. Donc,
En même temps, voilà, on le sait. Bref, merci à vous. Comme d'habitude, vous pouvez aussi nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. C'était le petit point que j'avais oublié. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le 208e, puisque comme Bunny, nous ne savons pas compter.
Ouais, le oui oui tout à fait le 208e bien entendu.
202e épisode et puis
Bah regarde, on s'est pas compté, on a fait le 201e avant le 200e donc la preuve hein.
Mais non monsieur, on l'a enregistré après. C'est en fait j'ai annoncé jeudi pour faire croire qu'on faisait comme d'habitude mais on est juste après le live.
Oui oui, bien entendu.
Dans la foulée. Parce qu'on est des fous, on s'arrête jamais. Bref, merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine et comme d'habitude, lisez bien, lisez malin.
Oh la vache! Oh, et puis n'oublie pas Comic Shop, Comic Pulse Bordeaux, le Comic Shop qu'il vous faut. Putain, j'arrive même pas à le faire.
Évidemment, évidemment. Voilà. À la semaine prochaine.
Ciao ciao. Sayo même.
Sayo. And you have-